Vous écoutez, on lit pour vous.
Ne plus penser à rien. C'est vraiment possible, et cela se voit dans le cerveau. Un texte de Sylvie Rioux-Milliot, paru le 6 janvier 2026 dans Science et Avenir. Une étude franco-australienne démontre que la sensation de ne penser à rien est bel et bien fondée. Ce blanc mental correspond à un état mental spécifique qui se traduit par une véritable interruption du flux de pensée et possède même une signature cérébrale particulière. Les travaux des chercheurs doivent se poursuivre pour savoir s'ils pourraient un jour être utilisés comme marqueur diagnostique des maladies psychiatriques. Mieux vaut penser à rien que ne pas penser du tout, chantait Serge Gainsbourg en 1965. 60 ans plus tard, une équipe franco-australienne vient de démontrer dans une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences que le fait de ne penser à rien, le blanc mental, mind blanking en anglais, consiste en une véritable interruption du flux de pensée et possède même une signature cérébrale tout à fait particulière. Les chercheurs de l'Université du cerveau, Paris, et de l'Université de Monash, Melbourne, viennent en effet de prouver que cet état correspond à un état mental spécifique que l'on peut corréler à des marqueurs neurophysiologiques et comportementaux. Le mind blanking se définit comme l'absence totale de contenu mental que l'on puisse décrire à autrui. Pas d'image dans la tête, pas de musique entêtante, pas de pensée obsédante. Rien, précise Esteban Munoz Musat, l'un des auteurs de l'étude, dans le communiqué de l'Institut du cerveau. Un état très fréquent après un effort cognitif intense et prolongé. Souvent activement recherché par les adeptes de la méditation ou de la pleine conscience, cet état est aussi très fréquent après un effort cognitif intense et prolongé, un examen universitaire, en cas de privation de sommeil, mais aussi chez les personnes particulièrement anxieuses et chez celles atteintes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. D'où l'idée ici d'étudier de plus près cet état, intriguant de longue date la communauté neuroscientifique. Esteban Munoz Musat, Lionel Nakache, Thomas Andrion du Picnic Lab, Paris, et leurs collègues australiens ont donc recruté 62 volontaires sains. Tous ont été soumis à des exercices cognitifs nécessitant une concentration prolongée, des tâches longues et fastidieuses au cours desquelles leur activité mentale a été enregistrée par électroencéphalographie à haute densité, HDEEG, et leur comportement soigneusement surveillé par le biais de questionnaires. Les résultats indiquent que les épisodes de blanc mental rapportés par les participants sont tous associés à des marqueurs neurophysiologiques et des schémas comportementaux très précis. Les chercheurs ont en effet identifié une moindre connectivité entre les différentes zones des réseaux de neurones distants, mais aussi un traitement perturbé des informations visuelles, très précisément pour ce qui concerne le traitement visuel dit « tardif », soit dans les 250 à 300 millisecondes après l'exposition à un stimulus. Or, c'est justement cette fenêtre de temps qui est considérée dans certains modèles comme la partie consciente du traitement visuel. De plus, les sujets se montraient légèrement somnolents, plus lents et faisaient davantage d'erreurs, précisent les chercheurs. Entre 5 et 20 du temps d'éveil. Ce qui fait dire à un autre scientifique du groupe, Thomas Andrion, ces nouvelles données appuient une idée qui s'impose de plus en plus. Être éveillé ne signifie pas nécessairement être conscient de quelque chose. Le mind blanking correspond à une véritable interruption du flux de pensée. Selon les hypothèses des chercheurs, ces moments de blanc mental correspondent peut-être à une expérience inverse du rêve lucide, soit ici une perte de connaissance transitoire survenant pendant la phase d'éveil. Il s'agit sans doute d'un événement extrêmement fréquent, au cours duquel certaines régions du cerveau entrent dans une forme de sommeil. Nous estimons qu'il représente entre 5 et 20 % du temps d'éveil, même s'il existe de grandes différences selon les individus, poursuit Thomas Andrion. Ce travail a aussi permis de démontrer que le mind blanking est distinct de deux autres états mentaux, comme la concentration intense sur une tâche, on task, et le vagabondage de l'esprit, mind wandering, ces moments de rêverie pendant lesquels l'activité mentale néglige les informations en provenance de l'environnement et se concentre sur des pensées sans rapport avec le lieu, les personnes ou les événements présents. Si ces travaux représentent une étape supplémentaire dans la connaissance de la conscience et de l'attention, ils pourraient aussi à l'avenir permettre de savoir si les moments de pause cérébrale pourront un jour être considérés comme un marqueur diagnostique de certains troubles neurologiques ou psychiatriques. C'était « ne plus penser à rien ». C'est vraiment possible, et cela se voit dans le cerveau. Un texte de Sylvie Rioux-Milio, paru le 6 janvier 2026 dans Science et Avenir.
Le Canada devrait-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes comme le fait l'Australie? Un texte de Sarah Collardet, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. En Australie, depuis peu, les jeunes âgés de moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès à une dizaine de réseaux sociaux, dont Instagram, TikTok, Snapchat et Facebook. Premier pays au monde à mettre en place une telle mesure, l'Australie souhaite ainsi protéger les jeunes des effets néfastes de ces plateformes. Le Devoir fait le point avec Vincent Paquin, chercheur au département de psychiatrie de l'Université McGill. Pourquoi la limite a-t-elle été fixée à l'âge de 16 ans? Est-ce le bon âge? Il n'y a pas de raison particulière qui justifie le choix de l'âge précis de 16 ans. Le raisonnement du gouvernement de l'Australie, c'est que les mineurs n'ont pas les mêmes aptitudes que les adultes pour utiliser les réseaux sociaux de façon sécuritaire et contrôler le temps qu'ils y passent. Certaines personnes diraient, et j'en fais partie, que 16 ans est peut-être un peu trop tard pour les introduire à ces plateformes. Les jeunes sont exposés très tôt au monde numérique et on pourrait saisir cette occasion pour leur apprendre à en faire usage de manière sécuritaire et équilibrée. Si on attend jusqu'à 16 ans pour leur permettre d'accéder aux réseaux sociaux, on perd l'opportunité de les accompagner dans leurs premiers pas. Quel serait alors le bon âge et la solution, selon vous? Déjà, la plupart des plateformes ont une limite d'âge à 13 ans, ce qui me semble bien. Après, choisir entre 13 ou 14 ans, c'est difficile, parce que chaque jeune est différent. Mais je pense qu'avoir une limite d'âge un peu plus hâtive que 16 ans serait préférable. La clé pour protéger la santé mentale des jeunes passe par l'éducation, la promotion de l'esprit critique et par des conversations ouvertes entre les jeunes et les adultes qui les entourent. Peu importe la limite d'âge qu'on choisit, à la fin, les jeunes peuvent trouver une façon de la contourner. Et ultimement, ils vont atteindre l'âge limite et vont être présents sur ces plateformes, donc il faut qu'ils aient les outils nécessaires pour utiliser les réseaux sociaux de façon équilibré à ce moment-là. Quels sont les bénéfices attendus de la mesure australienne? Ils sont attendus au niveau de la santé mentale et du bien-être des jeunes. On espère qu'ils vont moins s'exposer à la cyberintimidation, aux comparaisons de l'apparence physique en ligne et à l'usage prolongé des écrans. La surutilisation des écrans nuit à des activités qui sont nécessaires au développement des jeunes et à leur bien-être. Par exemple, Elle peut interférer avec l'activité physique, les activités sociales en personne ou encore les routines quotidiennes. Est-ce qu'il y a des risques liés à cette interdiction? Oui, il y a un risque que les jeunes parlent moins ouvertement de leur usage des réseaux sociaux avec leurs parents ou avec des intervenants. Par exemple, s'ils vivent des expériences difficiles sur ces plateformes, ils n'iront peut-être pas aller chercher l'aide dont ils ont besoin parce qu'ils auront peur d'être punis. Aussi, plusieurs jeunes tirent des bénéfices de leur accès aux réseaux sociaux. On parle souvent de leurs effets négatifs, et ils sont bien réels. Mais il y a quand même des situations où ces plateformes jouent un rôle positif dans la vie des jeunes. Je pense à l'usage créatif que certains font des réseaux sociaux pour partager leur centre d'intérêt ou partager leur production artistique. Pour plusieurs, c'est une source de fierté. Il y a aussi des jeunes qui appartiennent à des groupes minoritaires ou marginalisés et qui se tournent vers des communautés en ligne pour accéder à de l'information et obtenir du soutien. Le risque, c'est qu'ils perdent cet espace sécuritaire-là. D'ailleurs, ce n'est pas si clair à savoir si imposer un âge minimal à l'utilisation des réseaux sociaux va vraiment se traduire par des bénéfices attendus. Est-ce que le Canada devrait emboîter le pas à l'Australie? Je pense qu'on a tout intérêt à suivre de près ce qui se passe en Australie, puis à observer les effets de cette interdiction. C'est possible que l'on constate des effets positifs sur la santé mentale des jeunes, mais il y a aussi des risques associés. On peut donc apprendre de ce qui va se passer et, si le résultat est positif, on pourra songer à emboîter le pas. Actuellement, il est trop tôt pour faire ça. Et la science n'appuie pas cette décision. En revanche, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la responsabilisation des firmes technologiques face à leur contenu et à la façon dont leurs algorithmes affectent les jeunes. C'était « Le Canada devrait-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes comme le fait l'Australie ?» un texte de Sarah Collardet, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Mourir, c'est facile. Régler une succession, beaucoup moins. Un texte de Francis Gosselin, publié le 6 décembre 2025 dans Le Journal de Québec. Un transfert de richesses historiques des baby-boomers va secouer le Québec au cours des prochaines années. 1 000 milliards de dollars passeront aux mains d'héritiers. Mais derrière les chiffres, c'est l'enfer des successions. Dettes, délais et conflits familiaux. Découvrez les témoignages de ceux qui vivent ce parcours semé d'embûches. Mon père avait plusieurs belles qualités, mais la rigueur administrative et l'organisation n'en faisaient pas partie. À sa mort, le 13 décembre 2020, cela faisait une décennie qu'il souffrait d'Alzheimer. Par-delà le drame que représente cette maladie infâme, nous avons été affublés d'une double peine. Pas de testament, pas de mandat en cas d'inaptitude et des institutions publiques qui ont tout fait pour nous rendre la vie difficile. Depuis, le curateur public, qui nous demandait de justifier chaque coupe de cheveux aux différents banquiers, notaires, fiscalistes, avocats, employés de l'État civil, Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada, nous avons été confrontés à une série de goulots administratifs qui ont transformé une succession pourtant simple, mon père était fonctionnaire, en marathon kafkaïen. Le raz-de-marée qui vient. On estime qu'au cours des 10 prochaines années, environ 800 000 Québécois mourront. De 50 000 décès par an en l'an 2000, selon l'Institut de la statistique du Québec, nous allons atteindre près de 100 000 décès par an en raison de la pyramide démographique marquée par le baby-boom. Notre État administratif, nos banques et nos professionnels ne sont pas prêts pour une telle affluence. Déjà aujourd'hui, régler une succession est un véritable chemin de croix. Les obstacles, les délais, les exigences administratives rendent ces démarches pénibles. Aux délais et procédures s'ajoutent les frictions familiales qui rendent complexe la réalisation de ces démarches. Ce n'est pas populaire de s'attaquer à la mort administrative, pas payant politiquement. Et pourtant, au cours de la prochaine décennie, aucun Québécois, ou presque, n'y échappera. Les coûts indirects, en perte de temps, de productivité et de qualité de vie pour les héritiers, se chiffrent en milliards. Des délais par-dessus des délais. Pour ceux et celles qui, comme ma famille et moi, seront prises avec des successions sans testament, il faut prévoir une bonne année de travail. À l'époque où mon père nous a quittés, le directeur de l'état civil était débordé. Nous avons fait partie de ceux qui devaient attendre plus de 60 jours pour le certificat de décès. Sans certificat, impossible de mettre la main sur les comptes bancaires, sur les titres de propriété, sur les placements, l'épargne, les cotisations, les dons. On est là et on attend. C'est un peu con, attendre 2 mois pour un bout de papier. Aujourd'hui, ces délais ont sensiblement diminué. Mais ce n'est que l'étape 1 parmi quelques dizaines d'étapes. Faites votre testament de grâce. Mon père n'avait pas eu la préscience de croire qu'il allait mourir un jour. Il n'a donc pas cru bon de préparer la chose. Pour un décès sans testament, il faut faire la recherche testamentaire par un notaire, puis fouiller dans les boîtes, les tiroirs, le sous-sol, vérifier s'il n'y aurait pas un testament holographe, écrit à la main. Ensuite, on détermine qui hérite, et parmi les héritiers, on nomme un liquidateur, et on fait l'inventaire. On envoie des papiers à gauche, à droite, à la banque, au fisc, au courtier immobilier, au fonds de pension. Certains biens sont imposables, la résidence secondaire, les REER et autres. D'autres non. Et comme les délais se prolongent inévitablement, la réponse que vous obtenez au premier mois peut être différente de celle que vous obtenez au 12e. Et tout cela pourrait? Non. Tout cela devrait se faire automatiquement. À l'ère de l'intelligence artificielle, la gestion des successions fonctionne encore aujourd'hui par l'envoi de fax et de copies certifiées par la poste. C'est inacceptable. C'est pourtant ce que vivent des dizaines de milliers de familles chaque année. Alors oui, mourir, c'est facile. Ce qui ne l'est pas, c'est de laisser derrière soi un coffre-fort bureaucratique dont personne n'a la clé. Faire un testament, pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas seulement votre mort qui frappera vos proches, c'est l'État. C'était « Mourir, c'est facile, régler une succession beaucoup moins », un texte de Francis Gosselin publié le 6 décembre 2025 dans le Journal de Québec.
Cette femme malentendante, victime d'un congédiement illégal de son CIUSSS, témoigne des inégalités vécues. Un texte de Marianne Langlois et de Pierre-Paul Poulain, paru le 2 février 2026 dans TVA Nouvelles. Une femme malentendante qui a été congédiée illégalement attend toujours un dédommagement monétaire après avoir passé des années à se battre contre son ancien employeur. Ça fait 4 ans qu'elle se bat pour que justice soit rendue. Elle souhaite que son histoire inspire d'autres personnes atteintes d'un handicap à dénoncer les injustices qu'elles peuvent vivre. Laisse tomber le partenaire de Nathalie, Stéphane Réel. C'est au nom de sa compagne, inquiète des répercussions que son témoignage pourrait avoir sur sa carrière, que le retraité s'est confié au journal. La décision du tribunal d'arbitrage, datant du 19 septembre 2025, oblige le Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS de la Montérégie Ouest, a réintégré Nathalie dans son emploi car elle a été victime d'une injustice. La décision de mettre fin à sa période de probation était nulle et illégale, et elle doit réintégrer son emploi avec tous ses droits et avantages, indique le document de cour. Retour en arrière. En septembre 2021, Nathalie a débuté un emploi comme archiviste médicale au CISSS de la Montérégie Ouest. Tout au long de son parcours scolaire et de ses stages, dont trois en CLSC et un à l'hôpital Anna Laberge, elle a toujours bien performé comme elle n'avait pas de quota, explique M. Réel. La femme, qui a développé une surdité profonde à la suite d'une infection qu'elle a contractée à l'âge d'un an et demi, n'avait jamais eu de difficulté à étudier ou travailler auparavant. Transcription, temps supplémentaire, interprète, environnement calme, voici quelques accommodements qui l'ont toujours aidée à l'école comme au boulot. Au début de sa période de probation à l'hôpital Anna Laberge, en septembre 2021, elle éprouve des difficultés à travailler dans les délais et les conditions établies. Celle qui utilise couramment la lecture labiale, lire sur les lèvres, pour comprendre ses interlocuteurs s'est heurtée à un mur. Les gens portaient des masques à cette époque à cause de la pandémie. Même avec une visière transparente, elle voyait mal à cause de la buée et des reflets, ajoute Stéphane Réel. De plus, sa supérieure de l'époque n'avait implanté aucune mesure d'accommodement pour l'aider parce qu'elle ne voulait pas la traiter de façon différente des autres salariés, comme le mentionne le jugement. Sans aide adaptée en place, moins de 4 mois après son entrée en fonction, elle est congédiée à cause d'un manque de rendement. Procédure légale. Il lui a finalement fallu plus de 4 ans pour enfin obtenir justice et faire reconnaître l'absence d'accommodement comme une raison ayant nui à ses performances. Comme elle ne veut plus remettre les pieds dans cet hôpital, elle vient de remettre sa démission. Elle attend tout de même d'être remboursée pour les années de travail manquées et les préjudices subis, déplore M. Réel. Contacté à ce sujet, le CISSS de la Montérégie Ouest n'a pas souhaité commenter le dossier, mais affirme prendre acte de la décision rendue par l'arbitre et compte la respecter pleinement. C'était cette femme malentendante victime d'un congédiement illégal de son CIUSSS témoigne des inégalités vécues. Un texte de Marianne Langlois et de Pierre-Paul Poulain paru le 2 février 2026 dans TVA Nouvelles.
Bientôt, du saké montréalais. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. L'idée de fonder une brasserie de saké est née dans un restaurant indien. Le couple Yota et Noriko Suzuki s'était installé à Montréal depuis quelques années. Tous les deux travaillaient au buffet Maharani dans le quartier Parc Extension. Le propriétaire du restaurant a appris que Yota a été maître brasseur de saké au Japon. J'avais un maître de saké devant moi, il fallait faire quelque chose de mieux que du travail de cuisine, lance le restaurateur Mazum Rahman, maintenant copropriétaire de la brasserie Sanhon Saké, née durant les mois de turbulence de la COVID-19. Sanho, qui veut dire Mont-Royal en japonais, est maintenant installée dans un immeuble de bureaux de la métropole, à 2 pas du marché central. Assurément pas l'endroit où l'on croirait trouver une fabrique de saké. C'est pourtant bien ici que l'entreprise produit un ingrédient méconnu du grand public, le koji, qui est au cœur de la production du saké. Il s'agit d'un riz sur lequel on a ajouté une bactérie qui le fait fermenter. Un savoir-faire traditionnel nippon. Pour l'instant, aucun saké n'est commercialisé. La brasserie a obtenu son permis de la Régie des alcools, RACJ, en 2025 pour produire son saké, ce qu'elle fait depuis quelques mois, à des fins de test. Car il faudra obtenir une place à la SAQ pour le commercialiser. L'entreprise fait déjà une bière de koji et des produits issus de la fermentation. Le saké devrait apparaître sur les tablettes quelque part cette année, selon les souhaits de Sanho. Noriko Suzuki apprend à la dure que les lois entourant la production et la commercialisation de l'alcool sont complexes au Québec. « C'est un défi, dit-elle, en avouant du même coup qu'elle est prête à le relever. Et visiblement, elle a fait ses devoirs. L'entreprise va présenter un prêt-à-boire de saké à 5 % d'alcool à la SAQ en deux versions, nature et yuzu, cet agrume japonais populaire. La canette est très belle, le design est simple, le produit est local, mais le riz vient des États-Unis, même si les propriétaires de Sanho rêvent de faire pousser le riz ici, et ils croient que ça se fera. En attendant des rizières québécoises, la fabrique travaille avec de l'orge québécoise qu'elle fermente. En plus de la bière, produite depuis plus de 6 mois, Sanho a développé une gamme de produits autour du koji, dont des miso avec du soya québécois. Plusieurs produits. D'autres entreprises d'ici font du miso, mais aucune autre ne commercialise le koji. Pour une excellente raison, cet ingrédient est encore très méconnu au Québec. Personne ici ne se concentrait sur le koji, confirme Noriko Suzuki. Alors, qui en achète? Les grands chefs, explique-t-elle, citant parmi sa clientèle les étoilés Michelin que sont devenus l'année dernière le Master et le Sabayon. Mais il n'y a pas qu'eux. Durant notre visite à la fabrique de saké, un client est passé chercher sa ration. Le monsieur en question s'intéresse à la fermentation et joue avec le koji dans sa cuisine, par pur plaisir. Il s'en sert notamment pour attendrir la viande. Sanho a développé des produits faits avec cet ingrédient mystérieux, dont une tartinade au cacao et à la noisette qui ne comporte que 4 ingrédients. En plus des 2 déjà mentionnés, il y a un peu de sel de mer et l'amazake fait à partir du koji fermenté. On pourrait croire ces ingrédients trop mystérieux pour le commun des mortels, mais la pâte à tartiner a obtenu le prix de l'innovation au dernier SIAL, S-I-A-L, le Salon international de l'alimentation du Canada. Cette année est importante pour la brasserie. La production de bière va augmenter, seulement 800 litres en 2025, et on travaille aussi sur un alcool hybride entre la bière et le saké pour se faire une place dans le marché des boissons moins alcoolisées et très sophistiquées qui plaisent aux chefs qui veulent faire des accords et aux consommateurs qui veulent innover. C'était « Bientôt du saké montréalais », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.